On a vu ça il y a deux semaines. Hein. Il y en a qui étaient un peu fatigués, je me souviens, parce que c'était juste après le mariage. Et vous avez compris que c'était vraiment, vraiment important de comprendre la question « Tout m'est permis, tout m'est permis hein. ». Il y a des gens qui nous disent « Vous êtes une religion, vous êtes... dans une église, on ne pouvait pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, etc. » Mais les principes de notre foi, c'est pas ça, hein? Parce que même Dieu lui-même nous donne la liberté. Est-ce que Dieu t'a forcé? Est-ce que Dieu t'a forcé, Fred? Quelque part? Christian, est-ce que Dieu t'a forcé d'accepter Jésus? Est-ce que Dieu t'a forcé? Non. On était là, Dieu nous a parlé d'une certaine façon. On est bien d'accord? Marie, est-ce que on t'a frappé sur la tête pour dire, il faut que tu viennes dans une religion, dans une organisation? Non. C'est plus que ça. C'est Dieu, une relation avec Dieu. Voilà. Il y a une révélation surnaturelle dans nos cœurs pour comprendre que Dieu a quelque chose de remarquable pour nous, que Dieu ne veut pas nous laisser vivre sans une direction. Dieu ne veut pas nous laisser sans qu'on sache notre destination. Chaque fois qu'on nous prenons un avion, on s'assure vraiment, vraiment que nous sommes à bon endroit. Parce que si on se trompe, on attend, et l'avion qui devait partir de là-bas, c'était le nôtre, s'il est parti, c'est trop tard. C'est ce qui, aux États-Unis, ça nous arrive souvent, parce que c'est affiché, la queue aussi, c'est ici, et finalement, tout à coup, on change, il y a les gens qui courent. Parce qu'on a annoncé le changement de départ d'un avion. Donc il faut vraiment, je suis toujours stressé, vous comprenez, je ne vais pas louper mon avion. Hein. Et chaque fois, quand on rentre dans l'avion, vous êtes sûr que l'avion vous conduit à la destination que vous avez choisie. Quand on est aux États-Unis ou au Canada, là-bas, puis on sait que nous sommes dans un avion qui va nous conduire à Paris ou à Bruxelles, souvent nous prenons ou Paris ou Bruxelles. Et puis, on rentre dans un avion, on dort, on mange, on parle, on arrive quelquefois à avoir des contacts avec des gens, mais tout le monde est d'accord, nous sommes tous d'accord que l'avion va atterrir à Paris, puisque nous avons choisi Paris. C'est bon? Ce midi, vous allez sortir, dans quelques dizaines de minutes, vous allez sortir de cette salle et vous allez prendre votre voiture et vous n'allez pas dire à votre voiture, débrouille-toi, on n'est pas encore là. Mais vous allez guider votre voiture, on est d'accord? Ou à pied, ou au métro, quelques-uns. Vous allez faire attention, c'est pas dans ce sens-là. Mais je dois aller là. Et là-bas, je dois changer, comme Nali, lui, a changé le métro au centre, là-bas, pour prendre un autre métro. Hein. On est bien concentré sur notre direction. Et puis, dans la voiture, voilà, on sait où on va. Ça m'arrive une fois de temps en temps où je sors d'un événement. Je suis un peu perturbé, c'était un événement exceptionnel, je me suis donné vraiment beaucoup. Je rentre dans la voiture et puis je repasse toutes ces choses-là, je repasse dans ma tête, je réfléchis. Et tout à coup, je suis dans un carrefour et je me dis, mais finalement, je suis où? Et tout à coup, Christiane, elle me dit, oui, mais je t'avais dit, hein, fais attention. Hein. Oui, ça va. Comprenez? Ça vous arrive? Dans la vie spirituelle, la même chose. Ben moi, ça ne m'intéresse pas vivre sans connaître ma destination. C'est bon ? Ben moi, ça serait vraiment bête de vivre comme ça sans être sûr. C'est pas une vie, moi je démissionne. J'aurais dit, mais toi qui existes, si tu existes, bah, fais-moi comprendre. J'aurais tout fait pour être sûr de comprendre ma destination. Et au moment où j'ai compris ma destination, bah, on y va. On se bat. Ce n'est pas toujours facile. Mais la destination, c'est quoi? Bah, c'est l'éternité dans la présence de Dieu. Amen. C'est l'éternité dans la présence de Dieu. Nous vivrons dans un royaume, là où il y aura les nouveaux cieux, nouvelle terre. Ça nous dépasse, il y aura un roi. Mais il y aura une telle joie qu'on va se même dire, mais pourquoi on n'a pas fait un peu plus d'efforts? Parce que quand je dis d'efforts, bon, ce ne sont pas sauvés par les efforts, mais par la foi, vous comprenez, plus de notre foi, parce que c'est tellement bien. J'ai compris ma destination, j'ai abouti, j'ai vivré pour l'éternité avec Jésus-Christ. Amen, c'est formidable. Mais c'est ça l'espoir. C'est ça l'espoir. C'est ça notre espérance. Mais, tant qu'on est là sur cette terre, la Bible nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, il faut faire des choses qui nous permettent d'aboutir vers la destination. On est d'accord? Si nous ne faisons pas les choses qui sont des choses utiles pour aller vers la destination, ben, on va passer à côté. Et ça va être catastrophique, ça serait dommage de passer à côté de l'essentiel. Amen. Donc, tout m'est permis. Et puis, si on s'arrête là, je répète un peu ce que j'ai dit il y a deux semaines. Tout m'est permis. Si je m'arrête là, je me fais une philosophie. Tout m'est permis. Je peux tout faire. Oui, je te permets. Fais ce que tu veux. Crois à ce que tu veux. Tout est permis. Et si je m'arrête là, ben, je ne connais pas ma destination. Je ne sais pas où ça va me conduire. On est bien d'accord? Mais il faut prendre cette expression dans son contexte qui nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Tout ce qui n'est pas utile, ça nous détruit. Tout ce qui n'est pas utile, ça me rend esclave. Je deviens l'esclave du diable. Je deviens un esclave du péché. Je me souviens d'un jeune homme qui, ça fait déjà quelques années, qui s'est réveillé dimanche matin et il s'est dit, tout m'est permis. Je suis libre, voilà, on entend souvent ça. Ah ben, je suis libre. Tout m'est permis, je suis libre. Oui. Mais quelle liberté. Quelle liberté. Donc, un jeune homme qui se réveille dimanche matin, et il s'est dit, bon, ce matin, c'est un culte, nous avons un prédicateur, ça va être certainement bien, mais bon, moi, j'aime vraiment bien nager. Je suis dans une région où il y a un grand fleuve, là, vous comprenez, dans les rivières, dans des fleuves. Ben, on nage bien, on n'est pas obligé d'être dans la piscine. Moi, je suis élevé dans la montagne et j'ai grandi dans les rivières. Quelquefois, on a barricadé mettez des cailloux, on a barricadé la rivière pour augmenter l'eau. Et puis voilà, quand c'était comme ça, ben on pouvait nager, vous comprenez. On nageait avec les cailloux, c'était formidable. Bon, il n'y a pas ça ici, hein, mais dans la montagne. Et puis voilà, ce jeune homme-là, donc je sais nager. dit, je vais aller nager. Et finalement, tout m'est permis. Je ne suis pas obligé finalement d'aller ce matin au culte. C'est vrai. Qui t'oblige? Qui m'a obligé ce matin? Je ne suis pas venu ici par l'obligation. On est bien d'accord? Qui est venu par l'obligation? Non. Mais on a choisi quoi? Utile. On est bien d'accord? On a choisi utile. D'aller au culte ce matin, ben ça va être utile pour moi. Alors, ce jeune homme, il a choisi de ne pas aller au culte et aller nager. Vous savez ce qui s'est passé? Il nage, il est content, il est heureux. Ben, vous savez, nager, ça fait du bien. Chaque fois, je donne envie à Christiane, parce que quand on est à la mer ou quelque part, je dis, Christiane, regarde-moi, moi, je vais aller nager. Et puis elle rentre dans l'eau jusque là, et puis là elle bloque, ça ne va pas plus loin. Et quand je dis, viens avec moi, elle ne me fait pas confiance. Parce qu'une fois, quand on était jeune, je l'ai pris. Et puis ça dure, hein, mais elle va apprendre, elle va apprendre. On nage, on nage, on nage, on nage, on est tellement heureux. Et ce jeune homme, il était là, et il nageait, il nageait. Peut-être 2 mètres, 3 mètres, peut-être 5 mètres. Tout à coup, il sent qu'il a perdu ses forces. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Il commençait déjà à s'étouffer, il y a l'eau qui rentrait. En lui, voilà, il a perdu toute sa capacité de pouvoir nager. Et il s'est dit, ça y est, je serai mort dans quelques instants. Il a juste pensé à ça. Et au dernier moment où il avait encore un peu d'air en lui, il a su encore, le dernier souffle, il s'est dit, je vais prononcer le nom de Jésus, la vie. Il a juste dit Jésus dans son esprit, Jésus, aide-moi. Et là, au moment où il a dit Jésus, aide-moi, c'est comme si il y a quelque chose qui l'a propulsé vers le haut. Il a eu la force de pouvoir s'éloigner de profondeur et il est arrivé là et il a commencé à réfléchir. J'aurais pu partir. Ce matin, je n'ai même pas pensé à Dieu. Ce matin, je me suis dit, c'est le dimanche, je ne suis pas obligé, je suis libre, mais qui va me contrôler? Je vais aller nager pendant que les autres vont prier pour moi, pendant que les autres vont galérer pour moi, pendant que les autres vont louer le Seigneur. Moi, je vais profiter et regarder ce qui s'est passé. Il a fait un choix qui n'était pas utile. Ça ne veut pas dire que Dieu... Vous comprenez? Ce n'est pas catastrophique. Mais le principe pour lui, c'était ça. Je suis libre, je peux tout, tout m'est permis, je suis libre, je vais faire ce que je veux. Et puis tout à coup, Dieu se retire. Et la mort lui regarde dans les yeux. Ah, c'est terrible, hein? Il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Le premier épître de Pierre, chapitre 5, le verset 8 et 9. Nous avons un adversaire qui n'est pas content puisque nous avons choisi une bonne destination. Amen. Ça, vous êtes conscient? Tu as choisi la vie. Tu as choisi l'éternité. Ah ben, nous avons quelqu'un qui nous met le bâton dans les roues et il veut nous arrêter, décourager. Et à nouveau, il veut nous tirer vers les bas pour que nous puissions nous noyer dans la profondeur des eaux. Alors regardez ce que nous dit la parole. Soyez sobres, attention, soyez prudents, regardez autour de vous ce qui se passe. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est bon? Vous êtes avec moi? Cherchant qu'il dévorera. Ah! il veut nous dévorer. Comment ? Par toutes sortes de situations, de circonstances. Il veut nous dérouter, il veut nous séduire, il nous ment. Et il veut tout faire pour que nous puissions changer notre direction, puisque nous avons choisi la vie éternelle, nous connaissons la destination qui est claire pour nous. Donc lui, il veut que nous puissions changer la direction et aller vers la catastrophe, vers la destruction, vers la mort. Amen. Allô? Vous êtes avec moi? Je répète, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Est-ce que c'est biblique ce que je vous dis là? C'est la Bible, hein? Qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Croyez que Dieu est vivant. Croyez que Dieu est puissant. Restons dans la foi. Ne nous laissons pas détourner par l'ennemi. Détruire par l'ennemi. Par notre adversaire. Résistez-lui. Quand il y a des mauvaises pensées qui arrivent, tu peux faire, je répète, tout ce que tu veux. Dieu te donne la liberté, je me répète. Mais sache que tout ce qui n'est pas utile nous conduit vers la destruction, vers la mort. Donc, il faut résister à tout ce qui n'est pas utile. Amen. Donc, regardez, résistez-lui avec une foi ferme, sachant de toute manière que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier, partout. Quand je suis aux États-Unis et je parle avec nos amis américains, j'ai dit, vous vivez bien ici, vous avez des belles voitures, vous êtes déjà presque au paradis. Hein. Bon, je taquine un peu. Mais ils nous disent, mais tu sais, c'est pas toujours facile. Ah bon, je pensais que c'était facile ici, hein. Ah non, les chrétiens nous disent, non, c'est pas facile. Parce que l'ennemi se déchaîne partout dans le monde entier. Quand on était en Australie, la même chose, vous vivez bien, quel beau pays l'Australie. Pff, je vous encourage, si jamais vous pouvez aller là-bas, quel beau pays, la paix, etc. Voilà, un grand pays. Vous vivez vraiment bien. Nous avons d'autres combats, d'autres difficultés. L'ennemi veut nous décourager, etc. Et puis quand je suis en Afrique, les Africains, d'autres combats. Comment vous vivez là? Mais tu vis dans quatre tôles dans une case là. Mais comment? Nous on est heureux, on est contents. Hein. Ils sont plus contents qu'en Amérique. Hein. C'est incroyable. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Mais je découvre que ces gens ont une foi ferme. Même s'ils se trouvent tous, tout le monde n'est pas comme ça. Mais nous, j'étais très touché par ça. Il y a des gens qui vivent dans de plus belles maisons que vous. Hein. Je vous dis la vérité. Mais il y a des gens qui vivent dans des cases entre les tôles, là, quand on a été loin, là-bas, dans, comme ils appellent la brousse, hein, c'est ça. Et puis on voit toutes ces personnes qui se cachent devant nous, puis rentrent dans la case, et puis après on parle avec une personne, elle a la foi, elle prie, cette personne, Elle est heureuse, elle n'a pas grand-chose. Mais les combats sont partout, parce que l'ennemi veut nous décourager. Donc, vous avez vu, l'ennemi, le diable veut nous dévorer, briser, casser complètement, enlever ta personnalité. Quand j'ai vu deux jeunes, il n'y a pas longtemps, et je les ai vus il y a 20 ans, leur maman, elle s'est convertie. Et ces deux garçons étaient ados. Et c'était à Waterloo, ils sont venus. Puis j'ai dit bonjour, ça va. Ils ont complètement refusé l'évangile. Et la mère, elle s'est engagée. Et 20 ans après, je vois ces deux garçons. Nous voyons ces deux garçons. Et il y en a un qui est déjà abîmé par l'alcool, par la drogue. Est-ce que Dieu t'empêche de boire, prendre l'alcool ou la drogue. Non, tu as la liberté. Mais sache que si tu prends, qu'est-ce que ça se passe? Ça nous détruit. Je regarde ce garçon-là, 20 ans après. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à gagner ce jeune homme pour le royaume de Dieu. Pour qu'il puisse se séparer de la drogue, séparer de l'alcool. Qu'il puisse utiliser les finances d'une façon correcte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choses inutiles qui nous détruisent. Parce que l'ennemi fait tout pour nous déstabiliser. L'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu. Chapitre 5 et le verset 1 à 11. Fred, c'est toi qui vas nous lire, non? C'est prévu ou non? Bon, excusez-moi.
Alors Matthieu 4.
11 versets.
1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu, le diable. » Le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient.
Vous avez compris? Merci. C'était 11. Hein l'ennemi, le diable, se présente devant Jésus. Ça va? Comme souvent il se présente à toi et moi. Donc, par le biais de nos pensées, par le biais d'une certaine philosophie, par les actes, etc., pour nous, quelque part, déstabiliser. Jésus était là et il gênait, hein, vous avez compris, et l'ennemi arrive là pour le déstabiliser, pour le détrôner, pour le détruire. Imaginez-vous, si le diable avait gagné la bataille avec Jésus, aujourd'hui, on ne serait pas sauvé, hein. Alors, Jésus était là sur cette terre et il vivait comme toi et moi, dans la chair. Et puis Satan et le diable se présentent devant lui. Vous avez suivi le message. Fais ça, puis ensuite, voilà, tu seras... voilà. Donc, j'aimerais juste attirer votre attention, par exemple, en verset 8. Si vous pouvez projeter encore le verset 8. Le verset 8 nous dit « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde, les gloires. Et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et plus loin, verset 10 nous dit, « Retire-toi, Satan !» Vous voyez ? Alors le diable les laissa. Et voici des anges. Bon, c'est encore avant. Si on peut prendre le verset... Attendez. Le diable le transporta, voilà. Encore avant, excusez-moi. Le verset 6. Parce que j'ai noté 8, donc je me suis trompé. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, il était fils de Dieu, on est bien d'accord? Il savait. Mais vous voyez la tentation, la provocation, si tu es fils de Dieu. Donc ça, c'était vraiment une tentation diabolique. Ah ben, il dit, si tu es fils de Dieu, oui, je suis fils de Dieu. Quel piège là! Jette-toi en bas, voilà, jette-toi en bas. La réalité, c'est qu'il était fils de Dieu. Et ensuite, la tentation qui arrive, jette-toi en bas. Et là, là, n'oubliez pas ce verset-là qui suit. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire par ces versets-là? Que le diable, il est parti piocher dans la parole de Dieu. Le diable connaît mieux la Bible que toi et moi. Allô? Allô? Il a été chercher un verset et il dit, s'il y a le danger, eh ben la Bible dit que les anges viendront pour te porter. Vous avez compris? Le diable se sert même de la parole de Dieu, mais il tourne la parole à sa façon. Passe-moi ton manteau, là. Ta blouse, je ne sais pas. Ça, passe-moi. Et viens ici. Alors regardez un bon garçon, hein. Arnaud, hein. Regardez. Ah, c'est bon, hein. C'est bon, un manteau bien, hein. Un bon garçon. On est bien d'accord? Le même manteau. Tu peux tourner complètement dans l'autre sens. C'est moins bon. C'est le même manteau, hein. Est-ce que j'ai enlevé quelque chose? Tourne-toi un peu. Pas bon, hein. Si tu fais ça, bah, ta femme, elle va te dire, tu t'es trompé. Moi, quelquefois, ça m'arrive de petites choses. C'était pas bien mis, donc Christian, elle me dit, enlève ça. Vous comprenez? Alors, ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la vérité. Et le diable connaît bien la vérité. Il sait que c'est comme ça. Alors lui, il veut retourner la vérité à sa manière pour nous séduire. Et voilà ce qui était beau, remarquable, devient pas du tout. C'est moche. Vous êtes avec moi? Ça va? Merci pour la collaboration. Alors, vous avez vu que Satan, enfin le diable, a été chercher même un verset et il a tout fait pour séduire Jésus. Mais Jésus, il a discerné. Il a compris que c'était des attaques diaboliques. Il savait ce qui était utile et non. D'accord? Regardez Jacques, donc l'épître de Jacques, chapitre 2, le verset 19 nous dit quoi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Bien d'accord? Les démons le croient aussi. Vous pensez que les démons croient que Dieu existe? Allez, vous avez appris ça où? Dans la Bible. Ben oui. Donc on est d'accord, hein? Les démons le croient aussi et ils tremblent devant Dieu. Tremblent. Veux-tu savoir, voilà, le diable, les démons croient aussi que Dieu existe et c'est parce qu'ils connaissent, ils croient que Dieu existe et ils savent, les démons savent quel est notre bonheur, notre joie quand on accepte Jésus, d'accord? Eh bien, ils font tout pour nous retirer de cette joie, le bonheur, avec eux, et veulent tout faire pour que nous soyons avec eux à l'enfer. Ça ne nous intéresse pas. Non, non. Parce que nous connaissons notre destination. Matthieu, chapitre 3, le verset 13, nous dit encore quelque chose d'intéressant, vous allez voir. Comment Jésus était souvent devant des situations où à tout moment, l'ennemi pouvait les déstabiliser. Alors Jésus vient de la Galilée en Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Si tu peux passer encore un ou deux versets, je ne sais plus loin, 14, pour être baptisé par lui. De ma faute, je lui ai dit juste donner juste un verset. Matthieu. C'est Jean. Alors Jésus vient, on a déjà vu, mais, verset 14, Jésus s'y opposait. Pardon. Jean s'y opposait. Donc vous avez compris, Jésus vient vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. En disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Logique. Jean avait reçu une révélation. Il savait que Jésus était fils de Dieu. Il savait qu'il était tout petit devant Jésus. Mais c'est moi qui ai besoin d'être béni. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par Jésus. Regardez tout de suite, voilà, il y a les choses devant Jésus éprouvantes. Utile ou non? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Il les reprend. Arrête. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Que nous fassions la volonté de Dieu. Alors vous voyez, quelquefois on peut être détourné par une philosophie, par une pensée. Je vais appeler ça le sentiment. Vous comprenez? Même le sentiment des gens, c'était un sentiment, c'était charnel, c'était une bonne pensée d'un homme humain, voilà, mais je suis tout petit devant toi. Mais la volonté de Dieu, ce n'était pas du tout ça. Vous avez compris? Alors, le dernier exemple, les Actes des Apôtres. Chapitre 21. Le verset 11 et 13 nous dit, donc il y avait, finalement, c'était Paul qui devait aller à Jérusalem. Il s'est rencontré avec des hommes de Dieu, avec quelques chrétiens. Et puis là-dedans, il avait un prophète, d'accord. Et puis le prophète lui dit, il a pris la ceinture de Paul, voilà, de Paul. C'est l'IA lui-même, les pieds et puis les mains. Il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un homme qui parle, pas par les sentiments, pas juste dit le Saint-Esprit me dit, parce que c'était quelque chose de prophétique. Il fallait que ça s'accomplisse. Ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem. Et c'est ce qui s'est passé. Mais en même temps, regardez, Paul, quand nous entendîmes cela, verset 12, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Le sentiment. Tu aurais fait la même chose pour moi, Fred. Hein? Et j'aurais fait la même chose. Il dit, Fred, va pas à Jérusalem. Tu te rends compte, tu dois mourir. On va te frapper. On va te briser. On va te casser ton visage. Tu vas devoir mourir à Jérusalem. On va éviter ça. On va éviter. On va contourner. Allô? C'est humain, non? C'est humain. Le prophète nous a dit, tu vas souffrir. Ah ben non. Mais seulement la volonté de Dieu, c'était que Paul puisse se retrouver donc à Jérusalem pour souffrir pour Jésus-Christ. Parce que, au travers de ses souffrances, les épreuves, Paul, il a fait quoi? Il a donné un témoignage puissant. Il a prêché l'évangile. Il a communiqué la vie dans les épreuves. Dieu est avec lui. Et si Dieu est avec lui, qui pouvait être contre lui? Amen. Alors, une fois de plus, regardez. Paul pouvait être séduit par le raisonnement humain, par la pensée humaine. Alors, pour ma conclusion, mes amis, j'aimerais vous dire que ne permettons jamais, je vous rappelle encore cette parole de Jésus, quand Paul, Pierre, nous avons vu ça la dernière fois, et Pierre est venu vers Jésus pour lui parler aussi, voilà, selon son sentiment, et Jésus lui dit, arrière de moi qui ? Arrière de moi, Satan. Et pourtant, c'était Pierre. Alors, pourtant, c'était Pierre. Oh là là, c'était dur. Il s'adresse à Pierre et il lui dit, arrière de moi, Satan. Jésus aimait Pierre. Il est devenu un grand apôtre, un homme de Dieu. Mais Jésus a refusé les raisonnements de Pierre. C'était un raisonnement qui venait du diable. Alors c'est pourquoi j'aimerais vous dire, ne permettons jamais, jamais, je répète, jamais, pour que Satan se serve de ma bouche pour parler à quelqu'un. Allô? Satan peut se servir de ma bouche, de mon raisonnement, pour te détourner de la volonté de Dieu. Vous êtes avec moi? C'est notre combat. C'est notre combat. Tous les jours. De tous les jours. Je me souviens. J'étais jeune, je travaillais dans une entreprise et j'avais un ami qui travaillait là. Mais moi, j'étais content de mon boulot, de mon travail, parce que ça m'a permis de servir Dieu, servir l'Église. J'ai trouvé le temps quelquefois pour prendre Christiane avec moi, puis je lui ai payé un petit bouquet, ça, comme vous le savez, parce que j'avais le temps, etc. Et puis, je gagnais pas mal. Mais je voyais aussi à long terme. Je dis, si je reste là, dans quelques années, je vais pouvoir gagner beaucoup plus aussi. J'ai rien à perdre. Et j'avais un ami, il voulait juste tout faire pour gagner beaucoup d'argent. Je lui ai dit, écoute, après il est devenu chrétien aussi, je lui ai dit, attends, tu gagnes bien, tu vas pouvoir faire un petit contrat par-ci, par-là, tu vas gagner beaucoup plus, parce qu'à l'époque, on pouvait trouver facilement le travail dans le bâtiment, etc., puis gagner beaucoup d'argent, déplacement, etc. Je lui ai dit, écoute, est-ce que c'est vraiment ça? Choisis, fais un bon choix. Quelques années après, cet homme, il se retrouve sans travail. Cet homme, il s'est retrouvé sans sa femme parce qu'elle l'a quitté. Cet homme, je ne l'ai pas vu dans les réunions parce qu'il s'est engagé dans une autre église. Je ne l'ai jamais vu depuis quelques années là. Et moi, j'étais là. J'ai servi Dieu, j'ai compté sur Dieu. On voulait me déstabiliser, mais je ne me suis jamais fait avoir. Je dis, Seigneur, aide-moi. C'est mon combat d'être là, j'ai une famille. On a qu'à l'œuvre de Dieu, il faut que nous soyons stables. Nous sommes là pour construire, on n'est pas là comme des pigeons voyageurs, on n'est pas des électro-libres, mais nous, on est là pour construire, pour que nous soyons un témoignage pour ceux qui vont accepter Jésus. Et que bien, aujourd'hui, on est heureux. Et on a perdu quelquefois des amis comme ça. On les voit par-ci, par-là, au champ. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mal choisi. On a choisi ce qui n'était pas utile. Amen. Mes amis, nous avons devant nous un défi. Il y a tellement de personnes qui sont passées par notre assemblée. Nous avons eu des événements. Ces gens nous regardent. Et nous, il faut que nous soyons témoignages. Même quand vous venez ici, pas à 10 heures là. Attention, ne soyez pas fâchés avec moi parce que je vous parle comme ça. Mais c'est déjà un mauvais témoignage. Dimanche prochain, viens moi 10. Bon, allez, baisse pas la tête, je t'aime quand même. Hein. Pas de problème, on est entre nous. On est entre nous, les amis. Hein. Mais en même temps, on est devant qui? Devant Dieu. Et il vous attend ici pour 10 heures dimanche prochain. Il veut nous voler quelque chose. Des minutes précieuses sont perdues. L'ennemi rigole de toi parce qu'il dit dans son cas, ah ben aujourd'hui, il va arriver 10h05, 10h10. Ben, si ça t'arrive, ben dis-lui, je préfère arriver à 10h10 que rien du tout. Mais la prochaine fois, je vais venir 10h10. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a pensé même faire le café avant 10h. Mais s'il n'y a personne, il va faire le café pour qui? Bon, on ne se fâche pas? Je vous aime. Hein. Mais tout ça, l'ennemi fait tout pour nous distraire, pour nous voler quelques minutes, pour nous voler le temps, pour nous décourager, pour faire des choses qui ne sont pas du tout utiles, pour justement gagner l'état là dans notre vie. Alors, nous avons donc un événement devant nous, c'est...